C'est vrai qu'après la musique, on a plus envie de rentrer chez soi et d'en écouter encore.
Ce Gloria, il a été finalement, on l'a entendu au fil des siècles, je pense au Gloria de Vivaldi.
Oui. Oui, alors vous voyez, c'est pas la même mélodie, c'est pas la même tune,
oui, en fait.
C'est les mêmes paroles.
Oui.
Donc, alors que plusieurs siècles auparavant, c'était la même mélodie dans toutes les églises. Et on se souvenait, donc comme il n'y avait pas de notation encore, il fallait se le rappeler de mémoire, mais ça, on sait que la musique, ça se retient facilement, tout le monde se rappelle ses chansons d'enfance encore. Mais c'était le même partout. Donc là, maintenant, il y a une variété selon les endroits, si on est en Italie, si on est dans le nord de l'Europe, avec tout le développement de l'école, comme on l'appelle, franco-flamande, l'école Notre-Dame, qui était la plus avant-gardiste, si je mets des guillemets, bien sûr. Donc quand on a construit Notre-Dame de Paris, fin du 12e, il y a une école, un type de musique qui s'est développé là-bas, et avec les deux premiers compositeurs donc, connus dans l'histoire, Léonin et Perrotin, c'est leur nom. Léonin d'abord et Perrotin ensuite, qui ont officié à Notre-Dame. Et Notre-Dame de Paris, c'était la Mecque, si vous voulez, de l'époque, pour ce qui est de la musique et des nouveautés musicales.
Mais il était comporté comment la musique dans les autres églises
ou dans les autres pays ? Alors, de mémoire, ou alors les partitions commençaient à circuler. Là, j'ai des images, je ne sais pas, porter avec moi de partitions. Donc, c'est très intéressant de voir l'évolution de la notation musicale à partir de ce moment-là, de façon à ce qu'on puisse les recopier, ensuite les imprimer, puisque l'imprimerie vient donc au 1450. Mais avant, on les recopiait comme les manuscrits des auteurs en philo ou les manuscrits sacrés. Et ça circulait d'une abbaye à l'autre, d'une cathédrale à l'autre. C'est très actif comme ensuite les gravures, la peinture, ça circulait à travers l'Europe. C'était invraisemblable comme là. Enfin, on a du mal à l'imaginer, alors, vu les moyens de communication de l'époque. Oui.
J'ai une interrogation et une question. L'interrogation, dans le deuxième groupe de musique que vous avez passé tout
oui.
au début,
oui.
j'ai trouvé que ça ressemblait étrangement à Kodály, un contemporain
oui.
qui a fait école oui. depuis, mais alors,
oui.
c'est-à-dire qu'il y a une note de base et puis
oui.
un chant qui se fait sur trois notes,
oui.
pas plus.
Oui, alors il y a des, oui, c'est vrai qu'il y a des compositeurs contemporains du 20e qui se sont inspirés. Il y a des compositeurs actuels, Arvo Pärt par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'en est un Estonien, qui est bon, dans certains milieux on connaît bien. Il travaille sur la musique sacrée ancienne, et il interprète à sa façon, il faut aimer quoi, mais c'est assez remarquable. Donc ce n'est pas étonnant de noter ces ressemblances. Dans les derniers... Les extraits qu'on a entendus, on entend le Requiem de Mozart deux siècles avant. Par exemple, encore, oui.
Et par ailleurs, dans tout le long de votre conférence, pas un seul mot, pas une seule fois, vous avez prononcé le mot de grégorien.
Oui.
Musique grégorienne. C'est-à-dire que vous la situez...
oui, c'est la première qu'on entend, oui. oui.
C'est là, pour vous...
C'est le début.
C'est tout le début.
L'ancien monde. Oui, ensuite c'est devenu une façon d'appeler tout ce qui chante à l'église, mais sur un certain style. Et le style, c'est le style ancien. C'est la réforme du pape Grégoire, n'est-ce pas ? Qui codifie, qui dit, ben voilà, désormais c'est comme ça qu'on va chanter à l'église. Ça, on est avant l'an 1000. On est au 9e siècle. Et qui codifie la façon de chanter. Et cette façon de chanter a prévalu pendant plusieurs siècles. Et c'est ce qu'on a entendu au tout début, c'est le chant grégorien, oui, vous avez raison, il faut, ou on peut l'appeler comme ceci.
Et la création du do, à quel moment
La création
Du do, de l'époque, quoi.
Des notes de musique.
Oui.
C'est en 1040, quelque chose, c'est un italien qui donne des noms aux notes de musique. Je m'en rappelle plus son nom.
Tout au début de...
En 1040. Au début du XIe siècle, je n'ai pas la source, c'est à D'Arezzo, je crois qu'il s'appelle, qui a noté, qui a appelé les notes comme on les connaît. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'était un, il avait tiré les notes d'une phrase tirée de la Bible, et il a pris les premiers, la première syllabe de chacun des mots de la phrase, et il en a tiré les notes. Oui.
Et est-ce qu'on peut situer justement à cette période-là les notions de tonalité? Parce que là, sur les morceaux, peut-être qu'il n'était pas conscient, mais hautement présente. Parce qu'en même temps, vous avez la basse derrière, on a tout simplement affaire à une tonale qui après
s'est ouvert.
Donc est-ce qu'ils en ont conscience et quand ça commence à apparaître?
Oui, alors ça, ils en ont conscience très tôt, n'est-ce pas? Des accords, n'est-ce pas? Il y a des accords. Les accords principaux, c'était la quarte, la quinte et la tierce. C'est les seuls qui étaient utilisés pendant très longtemps. Il faut attendre plus tard pour entendre des accords qui ont l'air dissonants pour l'oreille d'alors, qui pour nous aujourd'hui, il n'y a plus rien de dissonant, n'est-ce pas, avec ce qu'on entend. Mais des accords mais là, vous perdez un peu, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout musicien, mais des accords de sixième ou de septième et tout ça, c'est beaucoup plus tard. Oui, c'est ça, voilà. Alors là, je m'adresse plutôt aux spécialistes pour répondre. Je veux dire, pour répondre à votre question, on en était conscient. Ça, c'est sûr qu'on en était conscient.
La basse, c'est la huit tonique dominante, elle revenait à la...
Sous-dominante.
Non, non.
Je crois qu'il y avait un accord qui était interdit par l'église. Oui. La seconde, par exemple, la carte aussi, c'était des accords, c'était diabolique.
Oui.
Donc, juste les accords harmonieux.
Oui. Alors, bien sûr, ça nous étonne aujourd'hui, mais... Oui. C'est le début 1600 par là. C'est le début de l'opéra. Mais il y a peut-être des personnes qui l'ont reconnu mieux que moi. C'est de Monteverdi, c'est la morale.
Voilà. Je pensais que c'était de Monteverdi, mais selon l'interprétation, c'est pas du tout dans mon champ d'oreille. Il y a des travaux qui ont été faits sur. Parce que justement, dans tout ce qu'on a entendu avant, justement, il n'y avait pas de solo, c'était
la voix. C'était impensable. Impensable.
Et alors, justement, ce qui me frappe, c'est que. Dans la peinture, on voit beaucoup plus vite se détacher les individualités
que
dans la musique.
Oui.
C'est-à-dire que dans la musique, on voit surtout un monde humain qui se multiplie, tous les individus, qui chacun prennent leur place, etc.
Oui.
Il faut pas vraiment ressortir un individu dans le salon, ça arrive que vers le 16e siècle.
Oui.
Alors dans la peinture de la Renaissance, on voit beaucoup plus vite des portraits, par exemple.
Oui. C'est exact, oui. Alors, on peut se demander pourquoi.
Moi, il me semble que dans l'histoire de la musique, à chaque fois, il y a un décalage par rapport à ce qu'on voit dans l'histoire de la peinture.
Ça m'est arrivé de le lire comme ça aussi. Et alors, à l'écoute répétée, je me dis, mais là, ils sont en avance, par contre. Parce que l'idée est quand même polyphonique. On peut dire que certains auteurs disent qu'avant l'an 1000, déjà, on commence à penser la possibilité de chanter plusieurs notes différentes en même temps. C'est pas très évident, hein. C'est plus au 12e et au 13e que vraiment c'est ça se répand et que c'est codifié ainsi et que c'est pensé de cette façon. Alors, si on prend un exemple d'une période qui n'est pas considérée ici, mais le début du 20e, et si on fait l'exercice pour voir en musique ce qui se passe, puis en peinture ce qui se passe, c'est difficile de dire laquelle est en avance sur l'autre, entre guillemets, du point de vue avant-garde.
C'est le même rapport, parce qu'en plus, la peinture prend modèle sur la musique au début du 20e. Donc, il y a des rapports.
On
se met vraiment en rapport l'une avec l'autre.
On peut le dire comme ça, oui. C'est une façon de le voir.
Il y a plusieurs peintres qui ont
répondu les conditions matérielles et proprement artistiques de production des œuvres, c'est beaucoup. La circulation est beaucoup plus aisée pour la peinture. C'est plus facile à transporter un panneau de bois peint ou une toile par la suite que de la musique. Parce que la musique, il faut des interprètes d'abord pour qu'elle existe. Alors, c'est pas aussi évident de rassembler un chœur, les conditions idéales, de préférence une cathédrale, surtout dans les derniers extraits, que de sortir son panneau peint de la gypsière. Et puis, la dimension commerciale aussi intervient plus rapidement. Donc, c'est plutôt dans ces conditions-là qu'on pourrait en chercher un début d'explication. Maintenant, est-ce que les peintres avaient le sens? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les peintres avaient le sentiment d'avoir une liberté plus grande à l'intérieur du dogme catholique que d'autres. On sait que chez les protestants, par exemple, il a fallu attendre longtemps pour que la musique rentre, n'est-ce pas, dans les temples. Donc là, il y avait vraiment un frein à la création et à l'innovation. En peinture, peut-être qu'ils avaient le sentiment d'être plus libres. Mais d'un autre côté, la peinture dépendait aussi des commanditaires. S'il n'y avait pas de commanditaires, il n'y a qu'au XIXe siècle qu'on a commencé à penser de faire de la peinture sans avoir une commande.
Et comme tu l'as montré très rapidement, les commanditaires, ils ont pu être représentés sur les toiles.
Oui, les commanditaires sont devenus laïcs beaucoup plus rapidement en peinture qu'en musique. En musique, il fallait être riche pour avoir une chorale dans son château et commander une musique. Une pièce pour tous les jours, pour tous les soirs, pour le repas, pour la danse, etc. Il va falloir attendre longtemps. Oui.
On parle beaucoup de musique religieuse, hein, essentiellement.
Oui.
Alors, moi, je voulais savoir quelle est la place de la musique profane,
oui.
Profane, hein, donc à l'époque du. Entre l'an 1300.
Oui.
Est-ce qu'il y avait vraiment une musique populaire, profane, je pense,
oui.
Et quelle était son importance?
Oui, profane, on l'appelle dans l'histoire de la musique. Alors, on en a entendu deux extraits, j'en ai d'autres extraits ici. Elle était importante, bon, vous connaissez les troubadours, les trouvères, donc c'était des musiciens. Et ensuite, il y a des compositeurs qui ont fait de la musique profane. Des madrigaux, c'est de la musique profane, et qui étaient représentés justement dans les châteaux, dans les palais, et non pas dans les églises. Donc, on a ce côté laïque, si vous voulez, de la commande, qui intervient pour ce genre de musique.
Et est-ce que l'Église s'opposait à l'expansion de cette...
Ben, elle s'y opposait en son sein, évidemment, dans son enceinte. On avait le droit sur le parvis, mais pas à l'intérieur. Évidemment, si le compositeur se hasardait à faire de la musique profane en même temps que de la musique sacrée, j'imagine que ça ne devait pas être tellement évident avec l'évêque, l'archevêque.
Et est-ce qu'il y avait des chœurs de femmes dans les...
De femmes. Alors, je crois que.
On entend un morceau.
Oui, on entend.
Un chœur de femmes, alors je me pose la question de savoir si c'était des chants religieux, chants par des moines.
Oui.
Est-ce qu'il y avait des chœurs qui chantaient?
Oui, là, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait voir selon les ordres. Peut-être selon les ordres monastiques, le mélange était possible. Mais je ne peux pas vous répondre.
La musique profane, elle parlait de quoi?
Elle parlait d'amour. Les paroles, on a
de l'amour, de l'amour délaissé, c'est ça, de la mort.
Je ne plaisantais pas quand je disais que ce qu'elle chante, c'est ma belle n'est pas venue, je suis triste, je pleure, ou bien voilà, c'était vraiment ça, en vieux français. Ça n'a pas changé.
Question. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que à la fois la verticalité polyphonique et l'introduction d'une mathématique du rythme se soit faite sans relation avec non pas la musique populaire, mais tout simplement la danse, c'est-à-dire la manière dont toute la musique la plus populaire s'est révélée à travers à la fois l'instrumentation, c'est-à-dire d'abord des instruments dans la... même en milieu rural, hein, l'instrument et les anciens accompagnent dès le 11e, 12e siècle très couramment la danse.
Oui.
Et la danse est une forme de musique qui impose aussi.
Qui a besoin de rythme,
sa verticalité, etc. Est-ce que c'est possible d'imaginer que la musique dite savante ait pu être ainsi abstraite de ce mouvement général de la danse. On se rappelle que si la musique baroque, par exemple, laisse une place aussi importante dans la danse, je veux dire, Bach écrit des sarabandes, oui, des bourrées, auvergnates, oui, etc. Oui. Donc, il me semble qu'assez vite, on peut lier les deux.
Oui. Moi, je suis incapable de répondre à votre question, ça dépasse vraiment mes compétences, mais je crois que c'est vraiment une question intéressante. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle, madame, vous
dans
avez l'air...
Le cycle de Bach, il a repris,
voilà.
Il les a repris.
Oui.
Oui.
Mais des avances, c'est-à-dire que,
oui,
effectivement, la circulation sociale, je dirais, de la musique,
oui,
se situe d'une part dans le champ de la musique savante, mais aussi dans de tous autres modes de rapport à la musique qui étaient manifestement très nombreux. Moi, je pense que, par exemple, dans les peintures même du XIVe siècle, on revoit des instruments. Les,
oui,
les instruments sont présents dans,
oui,
la peinture.
Oui.
Et ces instruments, ils étaient manifestement des instruments pratiqués quotidiennement, non pas forcément dans l'église, mais dans la fête.
Oui, dans la fête, oui. Oui. Mais c'était vraiment deux mondes séparés. Vraiment deux mondes qui n'avaient pas à se... qui se côtoyaient, bien sûr, parce qu'on était sur Terre et en même temps dans le monde divin ou sacré, mais ils étaient vraiment pensés comme deux mondes, deux planètes différentes. Donc, imaginez l'influence de l'une sur l'autre. À mon avis, c'est difficilement pensable avant la Renaissance.
Oui, en tout cas, la Renaissance, on est sûr. Que...
Oui, là, on est vraiment dans le nouveau monde depuis un moment, et puis là, il y a plein de choses qui deviennent possibles et pensables, bien sûr.
Oui.
Mais avant, je serais surpris, par exemple, la danse dans le milieu, dans les églises, c'était.
Ah non, bien sûr que non.
Mais elle existait, donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui étaient capables d'inventer,
et
de projeter une musique pour le plaisir du corps.
Oui, mais il y avait toujours ce sentiment de transgression.
Oui, oui, oui.
C'est certain.
Justement, les jeunes hommes étaient capables de transgresser quand même.
C'est ça.
À quel prix ?
À quel prix ?
À quel prix ? Parce que le lendemain, il y avait rendez-vous avec le curé au confessionnal.
Est-ce qu'on a une idée de la musique du 6e siècle avant Jésus-Christ, du temps de Platon,
oui, alors,
ou encore avant, de ces égyptiens, justement,
oui, ça, c'est une question importante dans l'histoire de la musique. Comment on conserve la trace des musiques passées? Alors, oui, il y a des chercheurs qui, enfin, en particulier au 20e siècle, il y a eu beaucoup de recherches, à ma connaissance, mais là, je suis vraiment à la limite de ce que je peux vous répondre. Mais on est parvenu à reconstituer les théories musicales, mais pas les mélodies. Il n'y a pas de traces.
Dans les hiéroglyphes,
À partir des instruments, alors on essaie d'imaginer. Vous voyez, ce sont des chercheurs qui doivent faire preuve de beaucoup d'imagination parce que les éléments dont ils disposent ou elles disposent sont très, très ténus pour reconstituer la musique. Mais il existe des disques de la musique, par exemple de la Bible à l'époque de l'Ancien Testament. Alors, la crédibilité de ce qui est proposé, on ne peut pas la valider, on ne peut pas la vérifier. Mais ça existe. Des tentatives de reconstitution. Et de la musique chez les Grecs aussi, chez les Romains, tout ça. Il y a beaucoup de tentatives de reconstitution. Mais
c'est parce qu'on connaît les instruments.
On connaît les instruments. Bon,
il y a des
manuscrits, il y a des traités. Enfin, un des... Boès, par exemple, le philosophe, donc on est au 6e, 7e siècle, je crois. Il a écrit un traité musical. Saint Augustin a écrit un traité musical. Donc, à partir de ça... on a quand même une idée de ce qui était possible et pas possible, selon les codes musicaux qui sont indiqués dans ces traités. Et il y a chez les auteurs latins et grecs, on trouve également des parties dans leur œuvre qui traitent de la musique, des arts, etc. Donc c'est à partir d'éléments tels que ceci qu'on essaye de s'imaginer à quoi pouvait ressembler la musique.
Ouais, merci.
C'est une énigme quand même. Enfin, on aimerait en savoir davantage, c'est sûr.
Ouais.
Oui, par rapport à ce que disait le monsieur, c'est dommage qu'il soit parti. Tout à l'heure, avec la relation entre les compositeurs contemporains, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un peu cette impression d'entendre, bon, pour citer le plus célèbre du Schoenberg ou des compositeurs comme ça.
Oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les compositeurs d'aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de qu'on déstructure le langage.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas plutôt un retour aux sources?
Oui.
Et cette atonalité qui est caractéristique du XXe siècle serait peut-être le retour aux formes primaires, entre guillemets.
Oui, tu as raison, oui. Vous avez raison. Oui.
Ça
oui.
Parce
non,
qu'on
non.
dit toujours qu'on va trop loin, trop devant.
Oui.
On critique ça, mais finalement, c'est peut-être qu'un retour en arrière très bien, très bien trouvé.
Non, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Depuis depuis une vingtaine d'années, il y a un retour au grégorien très fort d'intérêt pour le grégorien de la part de compositeurs contemporains, postmodernes. Et donc c'est un retour à l'essentiel. On peut trouver cette espèce de primitivisme musical dans des compositeurs qui ne sont pas considérés comme étant classiques. Chez Philippe Glass, par exemple, on a des choses extrêmement rudimentaires. Enfin, il y a certains musiciens qui disent que ce n'est pas de la musique. Quoi. Arvo Pärt, que j'ai mentionné, mais moi j'ai perdu un peu le contact avec ce monde.
Yves Klein, qui sur ses monochromes mettait des musiques monocordes.
Oui.
Ça montrait bien ce retour.
Oui. Oui, c'est sûr que ça, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Je dois dire que Nîmes, ce n'est pas l'endroit idéal pour se mettre au contact de l'avant-garde musicale. C'est assez difficile. Sinon, évidemment, par la radio et par Internet. Mais ça ne vaut pas une bonne salle de concert et un bon orchestre contemporain, quand même. Une faculté de musique à l'université de qualité. Bien, ben merci.
Merci.